C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Bienvenue à tous. Autre émission de « Ça tient la route ». Première question à mon associé Alain. Avais-tu encore les pneus d'hiver sur les voitures d'essai quand il y en a juste cette semaine?
Non. Et ça paraissait.
Non, deux fois, moi aussi. Bon, heureusement, j'avais un 4 roues motrices. Mais il y avait des à-coups. Alors, parce que c'est le 15 avril. Fait qu'on s'est dit, bon, mais le 15 avril, on est correct. 19 avril, bang, neige. Donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, installez vos pneus d'hiver le 1er novembre. Puis attendez donc au 1er mai de les enlever. On sait jamais.
Il y a toujours une tempête de neige en avril. Là, il commence à être tard.
Oui. Mais on s'est dit peut-être qu'on n'aura pas, mais bon, on y a pas échappé. Alors, sur ces bons mots et la fin de la neige, parce que là, on est passé au travers, on espère que l'horizon sera plus bleu et moins blanc.
Ouvert.
T'as quoi à nous présenter, toi, en essai routier cette semaine, mon cher Alain?
Ben, écoute, chose promise, même si ça fait longtemps, chose due, là, Infiniti QX60, dont on a brièvement effleuré le sujet il y a deux semaines, alors qu'on était au Vietnam et qu'on avait vraiment d'autres choses à faire.
C'est vrai.
Là, on va en revenir. En fond et en comble. De fond en comble.
De fond en comble.
La phrase était un peu boiteuse, mais vous voyez.
Bon, on va revenir sur un modèle qui est pas neuf, mais que j'apprécie à chaque fois que je le conduis, c'est le Honda Ridgeline. Modèle qu'on laisse un peu beaucoup traîner en arrière, dont on parle pas beaucoup, mais ma foi, il y a beaucoup d'avantages à conduire ce véhicule-là, et je sais que les vrais amateurs de pick-up vont dire, oui, Benoît, c'est pas un pick-up.
C'est pas un pick-up.
Oui et non. C'est vrai. C'est pas un vrai pick-up. Il y a pas de plaque de protection. Vous verrez pas vous promener dans le bois avec ça. Mais de tous les gens que vous connaissez qui ont un pick-up, il y en a combien qui vont se promener dans le bois? Levez la main, là. Ceux qui sont assez rares. Mais côté confort, pratique, c'est vraiment très bien. Et à tous les niveaux, on va en revenir.
C'est un utilitaire dans le sens strict du terme.
Et là, pour chasser la neige définitivement, on va parler camping caravaning un matin avec un invité qui s'appelle Paul Lacaire.
Oui.
Il est rédacteur en chef de Camping Caravaning,
la revue. Une référence en la matière.
Une référence. Oui. Donc, on va parler beau temps, parler chaleur. On va essayer de se sortir de ça. Alors ça sera en deuxième partie. Mais évidemment, comme on commence l'émission, on y va avec nos manchettes, nos actus. Alors, je t'écoute, mon cher.
Écoute, j'ai une nouvelle choc, Benoît. Attache-toi bien à ta chaise. C'est terminé le V8 pour le Grand Cherokee chez Jeep.
Non! C'est ça qu'on dit?
Tu vois, ma phrase suivante, et c'est tant mieux, donc c'est vraiment, ça dépend des réactions. Faut dire que les versions à moteur V8, là, et il y en a quelques-unes, il y avait le 5,7, le Hemi, il y avait le 6,4 du SRT de mémoire, là.
Puis, il y avait beaucoup de barres blanches sur ces V8-là, hein.
Exactement.
Ça commençait à dater. Le 5,7 et le 6,4, c'est des designs qui ont, ma foi, quelques décennies, pour être poli.
J'entendais parler de ça, j'étais pas encore professionnel dans le métier, bref. Donc, ces versions-là, ces V8-là, à bord du Grand Cherokee, sont officiellement choses du passé. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la marque Jeep pour le groupe Stellantis, Jim Morrison, qui lui-même a un nom qui date d'une autre époque. Ça pourrait être le chanteur des Doors, pourquoi
pas. Moi, c'est le gars le nom le plus facile à reconnaître. Quand on le rencontre, en tout cas, moi, je le connais bien, Jim Morrison, mais tu sais, c'est un des pilleurs, je me dis. C'est comme GM qui avait déjà eu Bob Moran aux États-Unis.
C'est vrai.
Ça s'invente pas ça. Tu dis, oui, j'ai vu Bob Moran, moi, aujourd'hui.
Pas plus tard que l'autre jour, j'ai croisé Jim Morrison dans la rue.
Ben,
bref, là, il était au salon de l'auto de New York. Une autre affaire qui ressort un peu de nulle part, parce que là, on est de retour dans l'espèce de calendrier des salons avec ça.
Oui.
Bref, cela signifie qu'on ne reverra plus d'aberrations comme le Grand Cherokee SRT8, là, qui était pendant des années, et c'est pas rien, le véhicule léger vendu au Canada qui avait les émissions de gaz carbonique par kilomètre les plus élevées. Devant les Range Rover, Lamborghini, puis tout le reste.
Et le pire, c'est qu'on vendait tout ce qu'on produisait.
Et ils s'en vendaient, effectivement.
Ils s'en vendaient.
Et on parle pas de la facture d'essence non plus pour ces modèles qui étaient loin d'être un exemple d'efficacité.
En ce moment, surtout.
En plus, maintenant, effectivement, ça n'a pas été dit à New York, là, mais les VUS et voitures à moteur V8 sont en train de disparaître en général au sein du groupe Chrysler. Et on sent qu'une combinaison hybride branchable comme celle du tout nouveau Grand Cherokee 4XE, 4xe, qui arrive là sur nos routes d'un jour à l'autre, sera la nouvelle norme. Jeep ne va pas présenter les modèles 4XE, j'ai la misère à le dire en anglais, je vais le dire en français, 4XE, comme des exemples de performance brute, parce qu'évidemment, on va jouer plus la carte écolo. D'ailleurs, ces véhicules-là répondent quand même à ce que recherche le groupe américain dans ses véhicules de performance. On parle de couple à bas régime. Tu sais, on dit en anglais, torque first.
Torque first. Donc, ben, nord-américain, c'est ça. Parce que les vitesses en général maximales sont moins élevées qu'en Europe.
Donc, on veut une accélération
explosive.
On va
avoir de la puissance d'une lumière à l'autre.
Mm-hmm. Et Ben, ironiquement ou pas, dépendamment comment on se situe là-dessus, mais une motorisation électrique, ça a ça du couple à bas régime. En fait, ça a du couple dès zéro, là, dès qu'on accélère. Ça aura juste pris un peu plus de temps à Chrysler et à Jeep pour s'en rendre compte qu'il y a peut-être d'autres constructeurs. Et en fait, on ne l'a peut-être pas encore tout à fait réalisé, étant donné que le Grand Cherokee 4XE est plutôt présenté comme un VUS de luxe plus raisonnable que les versions complètement décadentes de l'utilitaire qu'on a pu voir dans le passé.
Ouais, mais ils sont pas moins chers, hein?
Non,
c'est
exactement.
Tabarnouche, 72 000 de base?
Ben, tu sais, un CRT8, c'était pas une aubaine non plus.
C'était pas une aubaine non plus.
Puis on va se le dire, un Grand Cherokee de performance qui consomme 5 litres aux 5 km ou moins, je pense qu'on peut vivre avec ça.
Ouais, puis là, il y a le 6 cylindres en ligne Hurricane, là, qui va être la proche, en fait, qui va remplacer les V8. On l'a déjà présenté dans le Grand Wagoneer. Et parce que c'est pas assez grand, on a un Grand Wagoneer L. Écoute, c'est 5 mètres et demi. C'est une affaire de fou.
Éventuellement, avoir un XL, XXL. Éventuellement, ça va être un autobus.
Ben, ça va chercher le Ford Expedition Max. Ça va chercher l'Escalade trop long, là. Ouais. L'Escalade.
Ben, il y a le Yukon, il y a Denali XL, il y a cette gang-là de
exact.
Gros VUS,
alors, ça va aller chercher ça. On était à 130 000 sur le modèle régulier. Je sais pas, 140, 145. Les prix vont rentrer. Mais ça va être le moteur Hurricane qui est, puis il n'y a pas moins de puissance. Le plus puissant des moteurs Hurricane va faire 510 chevaux. Alors, vous ne serez pas en dette de puissance,
clairement
mais
pas.
On va avoir un moteur comme on a fait. Ford Expedition, là, c'est un 6 cylindres qu'il y a là-dedans.
Voilà.
C'est
ben
plus
oui.
un 8. Fait que ça s'en va. Je pense que le règne des V8 là, tire à sa fin, et pas juste chez Stellantis, mais chez à peu près tout le monde.
Ah oui, non, ben c'est ça.
Autre nouvelle, tu parles de la revanche des véhicules autonomes. Explique-moi ça, toi.
Écoute, on a beaucoup parlé depuis, en fait, des années maintenant, là, de l'arrivée des véhicules autonomes. Et pourtant, encore aujourd'hui, le plus près qu'on puisse être de cette technologie-là, c'est essentiellement d'activer un régulateur de vitesse avec reconnaissance des voies. C'est comme ça que je le définis.
Bon, oui.
Ce qui nous permet de tenir le volant un peu moins serré, parce qu'on peut pas vraiment lâcher le volant de sa voiture.
Hein. Ben, il y a beaucoup de gens Tesla qui l'ont fait.
Oui, ben, ça finit pas toujours
avec un résultat malheureux.
D'ailleurs, on a toujours hâte de voir comment Elon Musk va faire pour livrer des Tesla autonomes. Parce qu'il l'a promis, là, c'est soit la fin 2022 ou 2023, mais ça s'en vient très, très bientôt.
Dans moins d'un an, là.
Ouais. Mais bon, bref, entre-temps, une étude très fouillée publiée par, dans la revue Transportation Science nous en apprend un peu plus sur ce qui pourrait être le modèle d'affaires le plus attrayant pour ce type de véhicule-là. Il s'agit en fait d'une application très précise de la technologie dans un contexte particulier, celui de la livraison de colis ou de courriers dans des lieux soit urbains denses ou à l'inverse dans les régions rurales où la route est longue pour livrer un seul colis ou très peu de colis à la fois.
Okay.
Le titre de l'étude est « Impact of Autonomous Vehicle Assisted Last Mile Delivery », ça c'est faut respirer, « in Urban to Rural Settings ». Donc c'est littéralement ce que je viens de dire, mais en anglais. Logique. Bon, conclusion de cette étude-là. En milieu urbain, la livraison autonome est avantageuse dans les quartiers où le stationnement est rare, voire impossible, et où il est plus pratique de livrer des colis ou du courrier à pied. Dans ce scénario-là, le livreur ou le facteur, en fait, est déposé par le véhicule autonome à certains endroits stratégiques dans la ville et il fait une partie de sa route à pied,
ouais.
Rembarque dans le véhicule qu'il récupère un peu plus loin et va à sa deuxième portion, la portion suivante de sa livraison. Alors qu'en milieu rural, c'est un peu l'inverse. Les véhicules autonomes évitent de coûteux déplacements de personnel pour une poignée d'adresses seulement. Donc, le véhicule irait pour porter les colis pratiquement à la porte et reviendrait. Donc, ça fait une façon d'automatiser une partie de la job. Dans les deux cas, on parle de véhicules routiers. Donc, pas de drones, pas des trucs qui volent,
non,
fancy. Vraiment comme des voitures, dans le fond, des petits camions.
Il y a un pilote au volant du camion qui, lui, prend des drones qui sont autonomes.
Ben, il y a eu des concepts comme ça où il y avait des drones dans la boîte,
en
effectivement.
Europe, ouais, exactement.
Dans le cas de l'étude, on pensait vraiment juste à des camions, mais, okay. L'idée, c'est que les véhicules sont capables de se déplacer eux-mêmes sur la route. Il peut y avoir des modifications à partir de là.
Pour fin de mise au point, spécifions que le seul niveau 3 qui existe en ce moment, ou qui va exister, c'est du côté de l'Allemagne. Mercedes va présenter pour l'Allemagne, et je dis bien pour l'Allemagne, on parle pas de l'Europe, parce que chaque pays a ses propres lois et on doit faire affaire avec chacun des pays pour voir comment on va définir le niveau 3 qui va varier selon que les signaux sont automatisés, que les routes sont marquées. Il y a plusieurs critères, mais un niveau 3, rappelons que on peut laisser le volant, mais il y a toujours un conducteur derrière le volant.
Exact.
Et on doit être en contrôle de la situation si quelque chose arrive.
Cela dit, c'est le fun, les auto-autonomes ont appelé dans tous les sens.
Absolument.
Il y a des projets pilotes, tu l'as dit, en Allemagne et aussi en Chine par FedEx et Volkswagen, entre autres. La Poste américaine prévoit mettre ses propres véhicules autonomes en service aux États-Unis en 2025. Donc, ça s'en vient quand même assez vite.
Et là, ça serait, s'il n'y a pas de conducteur, c'est au minimum un niveau 4.
Donc, ça va être intéressant de voir comment, parce qu'il faut forcer un peu la législation, parce qu'effectivement, c'est une question légale aussi. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Et
ben, c'est ça.
Toute la question ensuite des responsabilités.
En fait, il y a des États américains qui le permettent. Mm-hmm. Le Michigan était un des premiers à cause de Détroit. Puis si on voulait tester des véhicules sans conducteur, il fallait bien que l'État le permette.
Exact.
Les États où, généralement, il y a des usines automobiles ont été les premiers à embarquer. D'autres, comme le Nevada, l'ont fait parce que le trois quarts des routes, il y a déjà personne de toute façon.
Ben oui, c'est ça. Alors,
ça change pas grand chose. Mais
je pense que tant qu'à faire un projet pilote, c'est mieux que ce soit des colis que des humains. Donc, les parcs de taxis autonomes, c'est un peu plus loin dans le futur, à mon avis.
Ouais, puis on a essayé chez Uber avec des résultats mitigés, là. Voilà, on a frappé une cycliste à Pittsburgh, etc.
Ça me semble un bon compromis d'essayer ça avec la poste pour commencer.
Oui. Essayons avec, diminuons le facteur risque.
Exactement.
Tiens, on parle de technologie. BMW a présenté cette semaine la nouvelle i7. La i7, c'est la série 7 électrique.
Mm-hmm.
Et c'est pas tant le véhicule qui est intéressant, c'est le cinéma maison qu'on avait en arrière. moi, j'appelle ça le cinéma maison. Écoute, t'as un écran 31 pouces en arrière. C'est pas des farces, là. C'est vraiment... En fait,
c'est un cinéma voiture. On peut plus dire cinéma maison.
Oui. Bon, c'est vrai que t'as bien raison. C'est un cinéma voiture. C'est 31 pouces de large, en fait. C'est un 8K, là. Alors, la définition est assez hallucinante. Ouais, c'est peut-être la fin
c'est
des cinéparks.
C'est comme un cinépark dans
en fait,
voiture.
On l'appelle le BMW Theater Screen, littéralement, écran théâtral ou écran de cinéma, là, si on veut. Et on veut aller ailleurs, divertir les gens à l'arrière. On va avoir même des abonnements pour de la télévision, pour certaines émissions, services de diffusion. Ou évidemment, on peut mettre ses films préférés. Et une fois qu'on est assis derrière, ben on se laisse conduire avec l'écran de 31 pouces qui est devant soi. Donc ça, c'est une petite vitre que je trouvais intéressante et différente. Et il y a aussi Audi qui a présenté un concept de fourgonnette électrique qui s'appelle le Urban Sphere, parce qu'on avait présenté le Grand Sphere, on avait présenté le Sky Sphere. Et là, c'est le Urban Sphere. C'est littéralement une fourgonnette qui se veut très moderne. C'est un 4 places où on a là deux grands sièges derrière, un peu des sièges ottomans là qu'on peut,
ah oui,
comme une première classe en avion. Là, on peut pencher le devant et s'installer très à l'aise.
Ah oui.
Bon, pour le moment, c'est un concept. Audi n'a pas confirmé qu'on va le construire. Il est long. Il fait 5,5 mètres de long. Le premier pays qu'on vise, c'est la Chine, parce que Audi a même avoué avoir consulté la Chine pour voir si ce modèle-là intéressait, parce qu'on le sait, en Chine, les grands-parents, dépendamment, là, mais les deux générations qui nous précèdent, participent généralement au financement de l'achat d'une maison, habitent avec les enfants et surtout sont transportés par les enfants. Donc, les places prioritaires en Chine, c'est toujours derrière, c'est jamais devant. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes sortes de limousines qu'on voit nulle part ailleurs en Chine. Ben, c'est exactement pour ça, évidemment, pour les Chinois fortunés, parce que généralement, c'est les marques haut de gamme qui les produisent. Mais on a été consultés et on parle que peut-être à partir de 2024-25, on pourrait voir ce véhicule-là. Est-ce que ça va venir chez nous, là?
Comment il s'appelle encore?
Le Grand Sphere.
Le Grand Sphere?
Exact.
Il va l'édition.
Non, excuse, c'est le Urban Sphere.
Je vais dire, il va avoir le Audi Cape Sphere, éventuellement. Véhicule d'horreur.
Cape Sphere, qui est au Canada, d'ailleurs, pour les gens qui connaissent un peu leur géographie.
Voilà.
Donc, voilà. C'était rapido, les petites nouvelles. Alors, on va aller à une première pause et on revient avec notre invité de la semaine, M. Paul Lacaire, qui est rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, aussi expert, évidemment, dans le domaine et un adepte. On va parler Camping Caravaning.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors cette semaine, on amène l'été plus proche de nous. On vous amène en camping caravaning parce qu'on le sait, au prix où va coûter l'essence, les gens risquent une fois de plus de rester pas très très loin de la maison cet été. Camping caravaning a connu littéralement une explosion depuis quelques années. Même des gens qui s'y intéressaient moins se sont mis, soit qui ont acheté un véhicule récréatif, qui ont acheté une roulotte, mais beaucoup se sont mis au camping. D'autres sont des adeptes depuis de nombre de décennie. Alors, pour en parler avec nous, on a le rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, M. Paul Lacaire. Bonjour, M. Lacaire.
Bonjour à vous.
Alors, merci d'être là, premièrement. Et parlez-nous un peu, je vais vous poser une question drôle de suite. Est-ce qu'il est trop tard pour réserver des campings pour cet été?
Il est moins 5.
Ah, il est moins 5, hein? Parce que j'ai un ami qui est dans le domaine, puis il me disait que l'an dernier, c'était parmi les saisons où il y avait littéralement bouclé son été le plus de bonheur. Les gens sont très, très tôt. Donc, si vous êtes encore décidé, il faut en parler tout de suite. C'est quoi les destinations qu'on préfère au Québec? Les endroits, là, bon, la Gaspésie, je pense que les médias en ont largement parlé, mais d'autres régions populaires ou peut-être des secrets bien gardés que les gens pourraient dire, hey, ça serait intéressant, puis on les connaît un peu moins.
Ben, écoutez, il y a la Côte-Nord aussi qui est en nette progression.
C'est vrai.
Il y a aussi d'autres ressources qui se développent, qui sont, par exemple, des hébergements à la ferme, si je peux dire.
OK.
Mais ça, c'est pour une halte d'un soir seulement, là.
OK. Donc ce qu'on appelle le gîte chez l'habitant, là.
Oui, exact.
Okay.
En Europe et en France, ça existe depuis plus de 20 ans. On appelle ça France Passion.
Okay.
Aux États-Unis, c'est Harvest Host. Et ici, ben, c'est Terre Ego.
Ah, OK. Ça s'appelle comme ça. D'accord. J'ignorais ouais. Le terme précis. OK. OK. Donc, ça, c'est des haltes qu'on peut faire en chemin. Si, mettons, comme vous dites, vous parlez de la Côte-Nord. Bon, on se rend pas nécessairement d'un trait à la Côte-Nord. Là. C'est une
on
très longue.
Oui,
oui. Parce qu'il y a 12 heures de route minimum pour se rendre sur la Côte-Nord. Là. Donc, c'est peut-être une bonne idée d'arrêter en chemin quelque part. Là.
Oui.
Okay.
Et il y a aussi des haltes municipales actuellement qui se développent de façon intéressante.
Ouais, il y a quelques villages relais. J'avais passé entre autres à Baie-Saint-Paul, là où il y a certaines facilités dans les villages relais. Si on parle, bon, évidemment, camping, on parle roulotte. Il y en a qui ont des petites roulottes légères qui vont avec des véhicules ou à peu près n'importe quel véhicule, parce qu'on le sait, là, même si on ne recommande pas de remorquer, à peu près n'importe quel véhicule peut tirer à peu près 454 kilos ou 1000 livres. Donc, quand on traîne petit, ça pose pas de problème, mais quand on arrive dans des plus gros formats, qu'est-ce que vous recommandez aux gens? C'est-à-dire, parce que on le sait, là, la pénurie de véhicules est criante en ce moment. Il y a pas grand-chose chez les concessionnaires. Quel bon conseil vous pourriez donner pour le remorquage? Comment on se renseigne et quel genre de coussin on se laisse quand on part en camping?
Ben, écoutez, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est regarder la capacité déterminée ou conseillée par le fabricant automobile que le véhicule peut remorquer.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est le point le plus essentiel. Ensuite, il faut se préoccuper de ce que l'on va remorquer, donc la caravane qui va être derrière, et elle aussi a un poids à vide, mais ce poids-là est moins important que le poids lorsqu'elle est en charge. Donc, lorsqu'elle est prête à partir avec armes et bagages, si je peux dire. Donc, à ce moment-là, c'est ça véritablement que vous allez avoir à traîner. Il y a aussi d'autres éléments. L'aérodynamisme de la caravane est un facteur à ne pas négliger. Comme exemple, je vous dirais, si vous prenez une feuille de contreplaqué par grand vent,
ouais.
Vous êtes mieux de la tenir de côté que de la tenir face au vent pour vous protéger.
Oui, c'est une assez mauvaise idée, effectivement.
Bon. Alors, donc, c'est l'aérodynamisme est quand même très important à mm-hmm. surveiller. Il y a des remorques qui sont beaucoup plus faciles à rouler que d'autres, qui vont avoir une surface frontale plus imposante, moins courbée, et à ce moment-là, ben, qui vont demander plus d'efforts de la part du véhicule.
OK. OK. Donc, ça, faut en tenir compte, évidemment, parce que le moteur va travailler plus fort. Ça va taxer tout ce qui s'appelle accumulateur, tout ce qui s'appelle fluide dans le moteur. Donc, ça peut taxer davantage là, les parties mécaniques.
Même chose pour les freins.
Ouais.
Même chose aussi pour la suspension, ce qu'on néglige souvent. Parce que si vous mettez une caravane qui va transférer du poids sur l'essieu arrière, ben, vous allez regarder la voiture, vous avez l'impression qu'elle monte une côte alors qu'elle roule sur le plat, tellement elle a l'arrière écrasé.
OK. Exact. Puis ça, faut bien répartir le poids parce qu'on voit des gens, des fois, moi, j'ai vu ça, des gens qui ont une petite roulotte, puis qu'ils vont mettre tout le gréement à l'arrière. Trois vélos, des supports. J'ai même déjà vu un barbecue. Je sais pas comment est-ce que le monsieur ou la madame avait arrangé ça. Mais l'arrière de la roulotte était très penché. Puis même, on avait l'impression que les roues de la roulotte flottaient un peu. Donc, la stabilité ne va pas être terrible.
Le changement n'était pas optimal.
Effectivement, vous avez raison.
OK. Parlez-nous, parce que, évidemment, l'électricité s'invite dans les automobiles depuis des années. L'électricité s'invite aussi dans les roulottes. Il y a Airstream qui a sorti un véhicule, pas un véhicule, mais une roulotte avec Thor, le partenaire, mm-hmm. qui est en fait une roulotte électrifiée. Parlez-nous de ça un peu.
Oui. Thor, c'est le propriétaire maintenant de Airstream.
Oui.
C'est le plus gros fabricant de véhicules récréatifs au monde, qui ont acheté des parts en Europe avec Imer. Et à ce moment-là, ils ont développé ce qu'on appelle une caravane motorisée. Actuellement, c'est uniquement un prototype. Mais cette caravane-là, qu'on va probablement voir sur la route peut-être d'ici 3 à 5 ans,
okay.
va avoir des moteurs roues. Donc, va avoir une batterie comme une voiture électrique. Et cette batterie-là va alimenter, faire tourner les moteurs. Donc, la caravane ne posera pas de résistance. La personne qui va avoir son véhicule ne consommera pas plus en remorquant que s'il ne remorquait pas.
Ah oui, OK. La roulotte va avoir sa propre force motrice.
Oui, exact.
Okay.
Et cette force va être harmonisée avec celle de la voiture qui est attelée devant.
OK, donc j'imagine que par le câblage, par la connexion, oui. on va être capable de transmettre, j'imagine, la vélocité pour harmoniser les roues de la roulotte avec celle de la voiture.
Oui, et même okay. ça va plus loin, mais il y a un mécanisme qui existe déjà, que j'ai déjà eu, moi, sur une de mes caravanes. C'est un contrôleur de louvoiement électronique.
Oui.
Mais sur la E-Stream, il va être intégré. Donc, ce qui fait que supposons qu'il y a une bourrasque devant latérale qui voudrait faire tasser l'arrière de la roulotte, ben automatiquement, un des moteurs va diminuer son énergie, créer un effet qui va rectifier la trajectoire. C'est pas les freins qui vont être appliqués cette fois-ci, c'est vraiment le moteur, un peu comme quand on conduit une Tesla.
Ouais.
Si vous lâchez la pédale, ben la voiture arrête, ou pratiquement. Elle ralentit automatiquement. Mm-hmm. Alors là, c'est l'effet de ralentissement va être appliqué sur une roue ou sur l'autre.
Ah oui, OK. Et donc, ça va. Oui, je comprends.
L'autre avantage de cette caravane-là, ça va régler un problème que beaucoup de conducteurs automobiles soulignent, c'est que c'est pas tout le monde qui est très habile à reculer.
J'avoue que quand on l'a pas fait les premières fois, c'est pas un peu pénible, c'est gênant. Moi, j'ai la première fois je l'ai fait, j'avais 21 ans et je peux encore vous décrire la scène, c'était pas beau à voir.
Bon. Et là, ce qui va arriver avec cette roulotte-là, c'est que vous arrivez sur un camping ou même devant chez vous, vous séparez la roulotte de son tracteur et là, vous sortez votre téléphone et vous la conduisez comme une petite voiture téléguidée qui va se ranger là où vous voulez.
Ah oui, parce qu'il y a une force motrice dans les roues, donc elle peut bouger d'elle-même. Et donc, avec le téléphone, on met le téléphone vers la gauche ou vers la droite et on dirige la roulotte dans la direction qu'on veut. Hey, c'est pas beau, ça?
Exact. Ben, remarquez que ce mécanisme-là existe de façon modifiée. Je sais, par exemple, que Safari Condo, sur ses petites roulottes Alto, propose une espèce de roue crantée qui vient se coller sur le pneu et qui nous permet de faire pivoter la roulotte sur elle-même si on veut, de la reculer, de la stationner à la position qu'on a choisie sur l'emplacement.
Ouais, puis il y a des camionnettes maintenant qui offrent des systèmes de recul avec les caméras qui vous donnent les angles. J'avoue, ça aussi, je l'ai essayé et ça aide beaucoup parce que là, parce que évidemment, quand on recule, pour les gens qui le font pas souvent, il faut toujours aller à l'envers de ce qu'on pense dans notre tête.
Oui.
Alors, si vous voulez aller à gauche, faut mettre à droite. Si vous voulez à droite, faut mettre à gauche. Et c'est une habitude, c'est un acquis. Il y a des gens qui sont très bons.
Ça peut être une bonne perception spatiale aussi, pour savoir la distance.
Mais avec les caméras de recul maintenant qui sont adaptées, j'avoue que ça facilite la tâche. Mais là, ce que vous me dites, on n'a même plus besoin du véhicule. On prend la roulotte et on la pousse d'elle-même. C'est encore plus beau, ça.
Oui. D'ailleurs, je pourrais peut-être donner un petit truc lorsque vous reculez avec une remorque. Au lieu de mettre les mains en haut du volant, mettez les mains ou la main en position à 6 heures. Donc, complètement au bas du volant. Et là, quand vous allez tourner à gauche, la roulotte va se déplacer dans la même direction. Si vous tournez vers la droite, elle va se déplacer aussi dans la direction où vous tournez le volant.
Ouais.
Alors, vous n'avez pas besoin de penser là, qu'il faut faire ça à l'envers, vous le faites dans la bonne direction.
Bon, un petit truc en terminant, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entrevue, M. Lacaire. Le prix des roulottes, est-ce que ça rejoint un peu le prix des voitures en ce moment? Est-ce qu'il y a une rareté? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus faciles à trouver que d'autres? Donnez-nous un portrait en 2 minutes de ce qui se passe dans ce monde-là.
Ben écoutez, là-dessus, c'est sûr que la pénurie de pièces, d'accessoires, la difficulté de les construire, le manque de personnel fait qu'il y a... Puis l'engouement qu'a suscité la pandémie pour le télétravail a amené une popularité absolument phénoménale des véhicules récréatifs. Le prix augmente, c'est certain. Il y a peut-être une différence avec ce qu'on observe dans le domaine de l'automobile. Aux États-Unis, il y a des concessionnaires qui vendent plus cher que le prix de détail suggéré par le fabricant.
Oui, parce
que le fabricant est obligé de les rappeler à l'ordre.
Absolument, parce qu'aux États-Unis, la loi ne l'interdit pas. Ici, la loi interdit de vendre le neuf. Je dis bien le neuf, pas l'occasion, mais le neuf n'a pas le droit d'être vendu plus cher que le prix de détail suggéré du manufacturier.
C'est ce que l'a dit ici, nos commerçants, ils ne font pas ça. Et c'est la même chose dans le domaine du véhicule récréatif. Okay. Ils ne vendront pas des milliers de dollars de façon impromptue de plus parce qu'il y a de la rareté. Mais effectivement, le prix des caravanes monte de façon exponentielle. Moi, j'ai vu des gens qui ont vendu leur véhicule usagé qui avait un an ou deux, puis qui ont fait des sous avec après l'avoir utilisé pendant ces 2 années-là.
OK.
Oui, donc, à l'occasion, les prix sont assez fous.
Donc, le phénomène est un peu le même. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, M. Paul Lacaire. C'était très édifiant. Puis on rappelle qu'aux gens, si des vacances en camping caravaning vous intéressent, il est minuit moins 5, faut y penser.
Réservez-vous aussi.
Alors, vous l'avez entendu de Paul Lacaire. Merci beaucoup à nouveau et on se tient au courant. Merci.
OK, bonne journée.
Voilà, c'est M. Paul Lacaire qui est rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, aussi expert évidemment dans le domaine et un adepte lui-même de la chose. Nous, on va à la pause, on revient avec notre chronique Écolo-Auto et nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le temps de nos essais routiers, mais avant, comment nous... écouter ou allez nous voir. Alors, ça tient la route, c'est très simple. Vous allez sur vos plateformes préférées de balado, Google, Apple, Spotify. Vous allez sur le 98.5 FM ou n'importe quel site web de C23 du réseau Cogeco dans la section balado. Ouais. Et vous avez « Ça tient la route ». On est avec Paul Arcan, la poche bleue, la tasse de tech.
Oui,
la
tasse excellent de balado techno, effectivement.
Absolument.
Oui,
et
merci.
Donc, vous allez là, vous nous écoutez, ou sur le site annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine. On met toutes les émissions qui sont là. Et vous pouvez nous écouter. Abonnez-vous, c'est la façon la plus simple. On vous avertit, on vous envoie une petite alerte. Et vous pouvez nous écouter, comme beaucoup de gens le font. Alors voilà, merci. Avant nos essais routiers, la petite chronique Écolo Auto de cette semaine. Tu savais, Alain, que c'était le salon de l'auto de New York qui était revenu.
Ben voilà.
Alors, il y a eu un salon de l'auto de New York. Pas de grandes nouveautés. On parle niveau électrique, parce que Écolo Auto, évidemment, s'informe sur les véhicules électriques. On a présenté une Kia Niro 2023 qui change un peu. C'est surtout qu'on a un peu amélioré l'autonomie. On passe de 385 à 407 km d'autonomie pour la version 2023.
Okay.
Le modèle PHEV, lui, va offrir 53 km d'autonomie. Je pense que c'était 37 ou 40, donc c'est un petit peu plus. On a refait l'habitacle. On s'est inspiré du EV6, qui est évidemment le véhicule phare chez Kia en ce moment. Donc, un nouveau style, plus d'espace. Ça arrive cet automne. Donc, ça, c'est pour le Kia Niro. Et en passant, le Kia Niro, c'est parmi les véhicules qui sont encore disponibles et que vous attendrez moins de 3 ans pour en avoir un, mettons.
C'est un avantage
en ce moment. Il y a eu la Deuce Vayan. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est une bébite rare électrique qui a 2200 chevaux. En fait, ce serait le véhicule électrique le plus puissant au monde. On l'a présenté au Salon de l'Auto à New York. 0-100 en 1,9 secondes.
Oh, c'est écrasant,
juste pour dire
ça,
que
oui.
T'es en bas de 2. Et on dit qu'il va y avoir 99 modèles qui vont être produits en 2025. Bon, on va attendre parce que pendant qu'il faut trouver les sous pour le faire. Là, je sais pas si ils sont en start-up ou en Kickstarter.
En Kickstarter, ça serait un peu intense.
Genesis a présenté un modèle qu'on avait mis sur le site annuelauto.ca la semaine dernière, le X-Speedium Coupe. En fait, certains disent que ça a l'air un peu d'une Jaguar, d'autres disent que ça a l'air un peu d'une Aston Martin, ça a l'air un peu de tout ça, c'est 100% électrique.
C'est un peu ça, Genesis, en fait.
Ça pourrait être le prochain véhicule électrique fort de Genesis. En fait, c'est dessiné par Luc Donkenvork. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien de Lamborghini,
voilà.
Qui est rendu chez Genesis, donc très reconnu. Il était chez Aston Martin aussi. Il a fait quelques compagnies. Donc, un designer belge, qui parle très bien français d'ailleurs. Et on a montré aussi la nouvelle version High Altitude du Jeep Grand Cherokee 4xe, qui offre une autonomie de 40 km, qui est la batterie qu'on connaît dans
le même groupe.
C'est
partout.
Le même groupe,
ben oui,
qu'on trouve partout. Et on a nommé la Hyundai Ioniq 5 comme la voiture mondiale de l'année. Alors voilà, c'est parmi les petites choses qu'on a retrouvées du côté
mérité,
de nous. Ce qui est mérité, en fait, elle a eu plusieurs titres, là. Je pense qu'elle a eu le design mondial de l'année, voiture électrique mondiale de l'année, mondiale de l'année tout court.
Ouais.
On ramasse beaucoup du côté de Hyundai. Et c'est un des rares véhicules, j'en vois sur la route des Ioniq 5.
Oui.
Puis Dieu sait qu'il n'y en a pas chez concessionnaires.
Oui.
Fait que pour qu'on en voit, c'est parce que il y a des gens qui avaient commandé tôt. Mais ça va très bien. Moi, je l'ai eu en essai. J'ai été extrêmement satisfait. Belle autonomie.
Il manque juste l'essuie-glace arrière, tout le monde le dit, hein?
Je pense que l'année prochaine, ils vont en faire un parce qu'on
leur
a tellement dit que s'ils n'en mettent pas un l'année prochaine, là, ils sont dans la merde.
Oui, c'est ça. La neige.
Alors, c'est ça.
Oui.
Donc, c'était rapidement notre chronique écolo auto de cette semaine. Alain,
oui.
On parle du QX60 que t'as. Comme tu dis, t'en as parlé vite.
Ah, écoute, juste pour
Vietnam,
dire que j'allais en parler plus.
Mais là, tu l'as roulé, tu l'as essayé, tu l'as ramené, là, ouais. T'es capable d'en parler.
Là, j'essaie de faire un lien parce que je me rappelle plus exactement. Le QX60, c'est le modèle phare de la gamme de VUS d'Infiniti. Et je me rappelle pas si c'est pas en filiation directe avec le FX, le fameux Guépard bionique d'une autre époque, ou si ça, c'est plus le 50. Parce que là, c'est
mêlant. Ça serait plus, en fait, le Pathfinder qui a changé de style, qui est devenu plus famille.
C'est pas une fourgonnette dans la génération précédente.
Là, on a ramené ça dans le style tout-terrain.
Ouais.
Comme était l'ancien Pathfinder, qui était devenu le JX35 du côté de d'Infiniti, qui est devenu le QX60 après. Là, on a une nouvelle génération de QX60 et on lui redonne un style un peu plus aventurier, disons ça comme ça.
Ouais, ben on a renforcé les traits parce qu'on n'a pas nécessairement voulu changer trop le look d'un VUS Infiniti, disons-le comme ça. Le modèle 2022 là a évidemment tout plein de nouveautés, mais on risque pas de se dépayser, hein. En tout cas, on risque pas de dépayser le client typique de la marque avec le nouveau design. Le QX60, on peut le dire comme ça, c'est de l'Infiniti pur jus, c'est comme ça que je le vois. La preuve la plus évidente se cache évidemment derrière l'énorme logo Infiniti qui flotte en plein cœur du gigantesque bouclier avant de ce véhicule-là. Véhicule très haut perché par ailleurs. Je parle bien sûr du V6 de 3,5 litres qui l'anime et qui, si on décide de ne pas couper les cheveux en quatre, est la plus récente version de ce qui est probablement une des plus vieilles cylindrées sur le marché. Le fameux VQ35, là, c'est l'espèce de nom de code de la gamme. La gamme VQ, c'est les 6 cylindres de Nissan. Là, je pense qu'on est rendu à la 6e ou 7e génération de ce moteur-là. Et elle existe depuis super longtemps chez Nissan, depuis plus longtemps que moi dans le métier, en tout cas. Et c'est une cylindrée puissante à la fois et juste assez sophistiquée pour satisfaire les acheteurs, mais tu sais, sans trop dépayser personne là non plus.
Ouais.
Dans ce cas-ci, on parle de 295 chevaux sous le capot et la grande nouveauté, évidemment, c'est qu'il est jumelé à une boîte automatique à 9 rapports.
Oui! Enfin! On s'est débarrassé de la boîte CVT, mais je le répète à chaque fois parce que j'ai tellement tapé sur ce clou-là chez Nissan et Infiniti, là, la boîte Jetco qu'on a eue pendant, écoute, ça doit faire 15 ans que c'est là.
Xtronic, ouais, c'est effectivement,
c'était... On n'en pouvait plus, là.
Il n'y avait pas que des qualités, disons-le, comme ça.
En fait, il y avait aucune qualité. Il n'y avait que des défauts.
Bref, même motorisation partout dans le QX60, peu importe la version. Rouage intégral de mise partout aussi de série. Donc ça, c'est un gros plus. Dans tous les cas, on aurait aimé un peu plus d'audace de la part du groupe Nissan, cela dit, parce qu'on va se le dire, cette combinaison-là tient bien la route. mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Disons que la cylindrée fait bien, mais les changements de rapport sont...
On est allé dans sécurité.
Oui, exactement.
On n'a pas joué sur le tableau de l'audace. On l'a fait un peu dans le design. On l'a fait un peu dans le... Et puis, il faut le dire, là, l'aménagement est beaucoup mieux qu'il était.
Exact.
La qualité perçue et la qualité générale des matériaux est de grandement améliorée par rapport à ce qu'on avait. Il y a moins de plastique dur. Il y en a encore un peu, mais
On en a mis
dans les endroits, disons, les où on n'a pas accès avec les doigts. Là. Les bas de porte, ouais, les bas de caisse. Mais c'est tolérable. Okay. Disons-le comme ça.
C'est sûr qu'un tableau de bord en 2022 ressemble à peu près... Ils se ressemblent tous. C'est une grande surface avec un écran dans le milieu.
Ouais, je pense qu'il y a une recette que tout le monde suit.
Puis, dans le cas du QX60, on a aussi droit à beaucoup de ce que j'appelle du plastique tactile, surtout au niveau de la console.
Ouais.
Ce qui fait que c'est impossible de savoir si on a activé les sièges chauffants, les sièges climatisants, la ventilation. En tout cas, il y a tellement... Toutes ces touches-là, c'est des petites icônes très lisses sur une surface noire laquée très lisse. Qui se trouve tout à peu près dans le même 5 cm². On ne sait jamais vraiment ce qu'on fait sans regarder très attentivement.
On accroche souvent un bouton sans faire exprès.
Et on en active un, on désactive l'autre, effectivement.
Exact. Et autre chose qui m'agace, et tu me diras si ça t'a agacé, toi, la sécurité est extrêmement intrusive chez Nissan Infiniti. Là.
Toujours. On ne peut pas changer de voie sans appeler quelqu'un avant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... le freinage, la
proximité des
véhicules.
Si tu ouvres la porte pour regarder derrière, tu ne peux pas reculer.
Voilà.
C'est vrai, là. C'est pas une blague. Moi, j'avais entendu chez moi un enfant passer dans la cour, puis je me suis dit, il m'a vérifié visuellement. En ouvrant la porte, tout bloque, tu peux même pas le mettre à reculons. Fait qu'il y a des situations où je trouve ça un peu embêtant. Je comprends la sécurité, mais des fois, on dépasse la simple logique, puis ça devient juste agaçant.
Il y a dû avoir un raisonnement derrière ça, mais on ne l'a pas nécessairement bien communiqué, n'est-ce pas?
Personne ne l'a dit.
Dans la catégorie du verre à moitié vide, on a aussi, un bel écran horizontal qui fait office d'interface multimédia, mais l'interface logicielle... pas super séduisante. J'ai trouvé un peu âgé, peut-être un peu vieillotte.
Et puis un peu lente, est-ce que tu es d'accord avec moi?
Il y a aussi effectivement un petit peu de lenteur, surtout au niveau du démarrage. Quand on parle de la voiture, c'est un peu bizarre, mais tu sais...
Non, il y a un temps mort.
Ça pourrait être instantané. C'est quelque chose qui pourrait être amélioré grandement.
Il y a presque 10 secondes avant que tout se mette en marche quand on parle.
Puis vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que Hyundai fait beaucoup mieux à bord du Genesis GV80 pour donner un point de comparaison. Puis ça devrait pas... Tu sais, Infiniti, c'est supposé être une marque de luxe japonaise. Il devrait avoir un certain avantage technologique et pourtant, ils ont raté le coche là-dessus. Je veux dire, peut-être paresseusement. Je pense que chez Infiniti, on cherche en ce moment et on ne veut pas prendre de risques, mais là, c'est un endroit où ça aurait été facile d'en prendre un.
Oui.
Cela dit, à l'arrière, évidemment, on peut asseoir jusqu'à 5 autres personnes que les deux personnes à l'avant, puisqu'on a deux rangées de sièges. C'est faisable, s'asseoir 7 là-dedans. Ça, c'est probablement même un des plus gros atouts de ce véhicule-là.
L'espace est bon.
Il est énorme, le QX60, on va se le dire. C'est une caractéristique d'ailleurs qui a été bien exploitée parce qu'il y a du rangement en masse aussi. Le coffre est assez généreux, qu'on rabatte pas les banquettes. Mais pour un prix de détail qui débute un peu au-dessus de 57 000 $ et qui peut coûter jusqu'à un peu plus que 70 000 $ dans la version la plus équipée, je trouve que l'offre n'est pas assez suffisante. Elle n'est pas suffisante pour convaincre vraiment, surtout qu'il y a beaucoup d'offres dans cette gamme de prix-là.
Oui,
avec
il y a
ou
du
sans
monde,
luxe,
là. Il y a
effectivement.
Du monde,
et on a quand même des fourgonnettes, en fait, qui coûtent moitié moins cher et qui font à peu près aussi bien. Donc, je dirais que... Conseil Infiniti, faut se réinventer un peu et ça presse.
Oui, faut oser.
Faut oser, exactement.
Je pense que c'est le mot d'ordre. Moi, je vais aller dans quelque chose qui n'ose pas pantoute. On n'est vraiment pas dans l'audace, mais.
On l'oublie.
Ouais,
bon,
peut-être un peu dans la forme.
C'est niché, disons. Ouais.
Mais c'est un véhicule qui est trop souvent laissé pour compte. Puis c'est un peu pour ça que je voulais en parler ce matin. Quand on parle pick-up intermédiaire, on parle de quoi? On parle de Toyota Tundra, on parle de Chevrolet Colorado, de GMC Canyon, le Ranger chez Ford.
Il y a Santa Cruz chez Hyundai
qui arrive. Bon, ben vois-tu, le plus proche du Santa Cruz, ça serait le Honda Ridgeline. Parce que c'est un pick-up qui n'en est pas un.
Mm-hmm.
Par contre, le Santa Cruz a été à sa sortie sur le marché l'année passée aux États-Unis pendant un temps. Là, ça n'a pas duré 6 mois, mais pendant un temps, ça a été le véhicule le plus vendu aux États-Unis parce que on a trouvé à un prix réaliste un véhicule confortable, qui est pratique, qui peut faire la plupart des tâches que vous avez besoin. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de charrier du contreplaqué puis des 3x6 toute la journée. Là.
Mm-hmm.
Il y a des gens qui veulent juste avoir quelque chose pour aller chercher du matériel pour le jardin, pour le potager, pour les petits transports, qui a pas besoin d'un véhicule qui va être capable de faire du travail lourd. Bon, ben On parle de Honda Ridgeline. C'est la définition exact. Même. Et la beauté de ce véhicule-là, c'est que c'est aussi confortable à conduire que n'importe quel VUS de catégorie intermédiaire.
C'est-à-dire qu'il est gros puis il est petit en même temps.
Voilà, ouais. On est basé sur un pilote. Et franchement, au volant, vous fermez les yeux, vous oubliez que vous avez une boîte derrière puis vous êtes dans un pilote. Donc, au quotidien, la conduite est extrêmement agréable. C'est un véhicule qui est pratique. Il y a un coffre fermé dans la boîte qu'on n'utilise pas toujours, qu'on pense pas à utiliser, mais qui est extrêmement pratique. Ça se comporte extrêmement bien sur la route. Le V6 3.5 litres fait très bien le travail. Vous allez prendre un genre 7.2 secondes pour faire un 0-100. C'est tout à fait correct. Mm-hmm. Et la consommation est réaliste. Évidemment, vous ne ferez pas du 6 au 100. Là. Rêvez pas en couleur, c'est un 6 cylindres. Vous allez faire entre 10 et 11 litres au 100. Puis vous êtes capable de traîner 5000 litres. Bon,
c'est un petit peu en bas de la moyenne, la consommation. Donc
c'est un peu c'est en bon. Bas de la moyenne. Mm-hmm. Il y a des véhicules de cette catégorie-là qui sont capables de traîner plus lourd que 5000 livres. Mais à 5000 livres, on est dans une zone où vous êtes capable d'amener, on parlait de roulotte plus tôt dans l'émission, ben, on met une roulotte de 20 pieds, bien équipée. On arrive à peu près à 5000 livres, plus ou moins, dépendamment de ce qu'on va ajouter. Mais ça reste quand même un véhicule extrêmement pratique, très fiable, qui a une fiabilité éprouvée depuis longtemps. C'est vrai, c'est pas le plus beau. Mais ça donne un résultat franchement intéressant.
Je ne sais plus si c'est un groupe d'options, mais tu peux avoir des haut-parleurs dans la benne. Donc, tu peux avoir une espèce de mode tailgate. Là.
Faudrait voir. Je sais que c'était une option. Mais effectivement, on peut avoir ça. La technologie, bon, c'est un écran tactile de 8 pouces. On n'est pas à la dernière technologie. Mais est facile à utiliser.
Oui.
Vous avez l'intégration Apple CarPlay Android Auto qui est de série sur toute la gamme, peu importe le Ridgeline que vous achetez.
Le système Honda est bien ces jours-ci.
Oui, et puis vous avez un stéréo à 7 haut-parleurs, ce qui est quand même tout à fait correct. Et les places arrière sont littéralement les mêmes que ce que vous allez retrouver dans un pilote. On a simplement remplacé la troisième rangée, l'espace derrière, par une boîte.
Voilà.
C'est aussi simple que ça. Donc, derrière, vous avez trois bonnes places. Vous pouvez mettre des sièges d'enfants, renverser les sièges sans avoir à modifier votre position de conduite à l'avant si vous avez des jeunes enfants. Donc, franchement, c'est un véhicule qui est très pratique, qu'on oublie souvent de regarder. Oui, c'est vrai, c'est pas le plus beau, mais je pense que c'est le plus intéressant, c'est le mieux construit. C'est pas mal le plus fiable depuis qu'il est là. Le moteur et la transmission, les deux ont fait leur preuve. Il est confortable à conduire. C'est probablement la plus grande qualité.
C'est comme une Dakar sur...
Oui, absolument. Tu sais, les gens vont dire, ouais, il n'y a pas de plaque de protection, il n'y a pas de gamme basse. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas besoin d'aller en dur-route, vous allez avoir du confort 367 jours par année.
Voilà.
T'sais, c'est pas tout le monde qui aime nécessairement se faire brasser pour dire « Oh, je vais peut-être dans le bois trois fois par année. »
Là,
bon, qu'il y a un chalet à la tuque dans un chemin forestier sur 30 km. Là, non, bon, si c'est votre cas, c'est pas le bon véhicule. Mais pour les 99,2% des autres gens, vous allez être entièrement satisfait avec ce véhicule-là.
Yes.
Alors voilà, ça met fin à notre émission de cette semaine. Merci Alain d'avoir été
merci
là.
Merci Benoît.
Claude Hébert derrière la console. Merci à Claude. On vous dit, soyez prudents sur la route. Et on va probablement vous revenir la semaine prochaine, dans une semaine où il n'y aura pas une neige. On se le souhaite. Bonne semaine tout le monde. Salut.
C'est 23.